Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. J'ai intitulé la prédication de ce matin « Un changement radical ». Et avant de commencer de nous plonger dans la parole de Dieu, je vous invite à un moment de prier. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ton esprit, merci Seigneur pour toutes tes grâces en Jésus-Christ. Nous te demandons maintenant de nous éclairer, de nous conduire par ton esprit à saisir la vérité et à l'appliquer dans nos vies. Que ton nom soit béni. Amen. Nous procédons tous à des changements plus ou moins importants à certaines périodes de notre vie. Il peut s'agir de changer de coiffure, de changer de voiture, de changer de maison, de changer de travail. Certains changements sont inhérents à la vie. On ne reste pas toujours enfant, on devient un jour majeur à 18 ans. On peut aussi se marier et devenir père de famille ou mère de famille. Mais il existe un changement radical qui intervient dans la vie d'un être humain lorsqu'il entend l'évangile et qu'il y croit. C'est la nouvelle naissance. Ce changement a une portée éternelle. Il s'opère sous la puissance de l'Esprit-Saint. Le livre des Actes des Apôtres nous relate l'histoire des apôtres dirigés par la puissance de l'Esprit-Saint de Dieu. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance de l'Esprit-Saint va changer radicalement la vie des apôtres, va changer leur service, mais aussi la vie des auditeurs qui auront accepté la parole de Dieu dans leur cœur. 120 hommes, sans moyens financiers extravagants, sans une logistique bien rodée, sans tous ces atouts que nous estimons indispensables à la réussite, vont bouleverser le monde alors parce qu'ils se sont laissés saisir et conduire par la puissance du Saint-Esprit. La même puissance de l'Esprit-Saint de Dieu est à notre portée aujourd'hui si nous prêtons attention aux Saintes Écritures. Lisons Actes chapitre 2. Nous voulons ce matin examiner deux choses dans ce texte. Tout d'abord, l'action souveraine de Dieu. Actes chapitre 2, versets 1 à 13. Ensuite, le sermon de l'apôtre Pierre, Actes chapitre 2, versets 14 à 41. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux ». Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. » Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et l'a répandu comme vous le voyez, et l'entendait. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étant dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Regardons maintenant le premier point, l'action souveraine de Dieu. Le chapitre 1 nous apprend que les disciples ont passé du temps dans la prière, tous d'un commun accord priaient. Ils ont attendu la venue du Saint-Esprit comme le Seigneur leur avait commandé, dans Actes chapitre 1, verset 4. Ils n'ont pas essayé de prendre en main l'évangélisation avec leurs propres idées, leur propre sagesse. Mais ce ne sont pas leurs prières et leurs attentes qui ont poussé Dieu à envoyer le Saint-Esprit. Ce n'est pas non plus leur haut niveau spirituel. Dans le chapitre 2, ils sont assis et à l'époque, on priait debout ou à genoux. Donc Dieu envoie le Saint-Esprit au moment et de la façon dont il a choisi. À quel moment donc Dieu envoie le Saint-Esprit? Le texte nous montre que c'est à la Pentecôte. Pentecôte signifie 50e. C'était une fête juive appelée encore fête des semaines. Exode chapitre 34, versets 22 à 23, ou fête de la moisson. Exode chapitre 23, verset 16. On la célébrait 50 jours après la Pâque. Après l'exil, la Pentecôte rappelait aussi le don de la loi. Dieu donc envoie l'Esprit Saint en suivant le modèle des fêtes établies dans l'Ancien Testament et non en réponse à une quelconque activité humaine. Les fêtes mentionnées dans Lévitique 23 retracent les grandes lignes de l'œuvre de Jésus-Christ. Elles préfigurent le plan rédempteur de Dieu qui s'accomplit dans le Nouveau Testament. La première grande fête que nous trouvons dans Lévitique 23, c'est la Pâque. C'est le sacrifice de l'agneau pascal qui symbolise la mort de Christ. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La deuxième fête que nous trouvons est la fête des prémices, ou encore la fête des pains sans levain. Elle était célébrée le lendemain de la Pâque. On offrait les prémices de la moisson, ce qui symbolise la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, en tant que prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. La troisième fête, enfin, c'est la Pentecôte. Elle était célébrée 50 jours après le premier dimanche qui suivait la Pâque. Lévitique 23, verset 15. On faisait une autre offrande des prémices. Lévitique 23, verset 20. L'Esprit est venu le jour de la Pentecôte comme prémisse de l'héritage des croyants. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5, Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14, on dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » D'autre part, ceux qui sont rassemblés sont les prémices de toute la moisson des croyants à venir. Dieu envoie donc l'Esprit à la Pentecôte en suivant le modèle des fêtes établies dans l'Ancien Testament, en Lévitique 23, et non en réponse à une quelconque activité humaine. De quelle façon le Saint-Esprit est-il venu? Nous lisons au verset 2 d'acte 2, « Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et remplit toute la maison où ils étaient assis. » On voit donc que le Saint-Esprit arrive de façon soudaine. Les croyants sont pris par surprise, ils disent « tout à coup ». Ils ne s'attendaient pas à tous ces signes extraordinaires. Le Saint-Esprit est venu aussi de façon surnaturelle, puisque nous lisons « tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis ». Ce mot « comme » nous montre que Luc doit utiliser des analogies pour tenter de décrire ce qui se passe. Le Saint-Esprit est venu encore de manière audible, un bruit, comme celui de vent impétueux. Le Saint-Esprit est venu de manière visuelle, des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Semblable encore une analogie. Luc doit utiliser des analogies pour tenter de décrire ce qui se passe. Seuls les croyants présents dans la maison sont baptisés du Saint-Esprit. Ils sont tous unis en un seul corps spirituel, le corps de Christ. Ils sont aussi remplis de l'Esprit puisqu'ils parlent des merveilles de Dieu dans d'autres langues. Voici donc les preuves de la venue du Saint-Esprit. Il a manifesté sa présence aux oreilles, aux yeux et par la bouche des croyants. Voyons maintenant comment l'Esprit est venu, comment il a baptisé, comment il a rempli et comment il a parlé. Tout d'abord, l'Esprit est venu dans Actes chapitre 2, versets 2 à 3. Le Saint-Esprit était déjà actif avant la Pentecôte. Il est actif lors de la création du monde. Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. Il est actif au fil de l'Ancien Testament, par exemple dans les Juges, chapitre 6, verset 34, dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Il est actif dans la vie et le ministère de Jésus-Christ. Mais un changement a lieu à la Pentecôte. L'Esprit ne descend pas seulement sur les hommes. Désormais, il habite en eux de manière permanente et non plus de manière temporaire. Nous lisons dans Jean, chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir plus tôt parce qu'il fallait que Jésus-Christ meure, qu'il ressuscite d'entre les morts et retourne au ciel pour que l'Esprit soit envoyé. Nous lisons par exemple dans Jean au chapitre 7 et à partir du verset 37 « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Souvenons-nous du calendrier juif dans Lévitique 23. La Pâque, symbole de la mort de Christ. La fête des prémices ou des pains sans levain, qui symbolise la résurrection. Puis la Pentecôte, qui symbolise les prémices de l'héritage des croyants, la venue du Saint-Esprit. La venue de l'Esprit a été accompagnée de trois signes extraordinaires. Un bruit comme celui d'un vent violent, des langues de feu et les louanges dans des langues étrangères. Maintenant, voyons comment l'Esprit a baptisé. Il nous est dit dans Actes chapitre 1 verset 5 « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit a uni les apôtres en un seul corps spirituel, le corps de Christ. Dieu a relié les croyants à la tête glorifiée de l'Église Jésus-Christ et Dieu a constitué le corps spirituel de Christ sur la terre. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 14. Historiquement, le baptême du Saint-Esprit a eu lieu à la Pentecôte. Aujourd'hui, il se produit chaque fois qu'un pécheur se donne à Christ et naît de nouveau. On voit aussi dans ce texte que l'Esprit a rempli ceux qui étaient là. Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit Saint a rempli les croyants pour qu'ils aient la puissance de témoigner et de servir. Dans Actes chapitre 1, verset 8, nous lisons « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La parole de Dieu ne nous exhorte pas à recevoir le baptême de l'Esprit, car c'est un acte que Dieu accomplit une fois pour toutes lorsque le croyant se donne à Christ. Par contre, la Bible nous commande d'être remplis du Saint-Esprit, car nous avons besoin de la puissance de l'Esprit-Saint pour servir Dieu efficacement. À la Pentecôte, les chrétiens ont été à la fois baptisés et remplis du Saint-Esprit. Plus tard, ils ont été à nouveau remplis du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 4, verset 8 et 31, Actes chapitre 9, verset 17, Actes chapitre 13, verset 9. Mais ils n'ont pas connu d'autres baptêmes de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit signifie que nous appartenons au corps de Christ. La plénitude de l'Esprit signifie que notre corps lui appartient. Le baptême de l'Esprit est définitif. La plénitude de l'Esprit se reproduit lorsque nous nous appuyons sur Dieu et que nous le laissons agir dans notre vie. Le baptême de l'Esprit implique tous les autres croyants car il nous unit au corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. La plénitude de l'Esprit est personnelle et individuelle. Tous les croyants sont baptisés de l'Esprit, mais tous ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Voyons maintenant comment l'Esprit a parlé dans Actes chapitre 2, versets 4 à 13. Les croyants remplis de l'Esprit louaient l'Éternel, parlaient des merveilles de Dieu. Ils parlaient des langues étrangères, des langues connues, car Luc cite 15 lieux géographiques différents et précise que les habitants de ces contrées ont entendu les disciples parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. C'était la langue de leur pays et non une langue inconnue. On peut comparer le prodige de la Pentecôte, où les croyants parlent des langues de divers pays, avec l'épisode de la tour de Babel. À Babel, il y a une sanction. Dieu a confondu les langues et les peuples ont dû se disperser. À la Pentecôte, il y a une bénédiction. Dieu a uni les croyants dans l'Esprit. Après Babel, les gens étaient incapables de se comprendre. Mais à la Pentecôte, les hommes ont entendu et compris les louanges adressées à Dieu. La tour de Babel était construite pour glorifier les hommes. La Pentecôte a glorifié Dieu. La construction de la tour de Babel était un acte de rébellion. La Pentecôte était un acte de soumission à l'Éternel. Quelle différence, quel contraste. Babel, un jugement, la Pentecôte, une bénédiction. Nous avons lu que les disciples parlaient dans des langues étrangères parce que l'évangile devait être annoncé au monde entier, comme nous avons lu dans Actes chapitre 1, verset 8. Il fallait que chacun entende dans sa propre langue le message du salut en Jésus-Christ. Et la venue du Saint-Esprit n'est pas restée sans effet. Les signes surnaturels ont attiré la foule. Les Juifs cultivés en pèlerinage à Jérusalem sont surpris de voir des Galiléens, considérés à cette époque comme ignorants, comme dépourvus d'instruction, parler des merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit préparait alors ainsi la proclamation de l'Évangile. Et regardons donc, dans cette deuxième partie, le sermon de l'apôtre Pierre. C'est un témoignage rendu aux perdus, dans Actes chapitre 2, versets 14 à 41. Pierre ne prêche pas en langue. Il s'exprime en araméen, la langue en usage parmi les Juifs. Le message s'adresse d'abord aux Juifs. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. D'abord aux Juifs. Les païens qui étaient présents dans la foule étaient des prosélytes, c'est-à-dire des non-Juifs convertis au judaïsme. Le message du salut sera plus tard annoncé aux païens dans Actes chapitre 10 chez Corneille. Dans son sermon, Pierre va donner trois explications. Il va dire ce qui est arrivé. Il va dire ensuite comment cela est arrivé. Il va dire enfin pourquoi cela est arrivé. Regardons la première partie, comment Pierre explique ce qui est arrivé. Les versets 14 à 21. Il explique que l'Esprit Saint est descendu. Les disciples n'étaient pas ivres comme certains voulaient le faire croire. Ils avaient reçu l'Esprit envoyé du ciel. La louange rendue à Dieu était la démonstration de l'arrivée du Saint-Esprit. Il était venu habiter parmi son peuple. Les jours de sabbat ou lors d'une fête religieuse, les Juifs ne consommaient ni nourriture ni boisson avant 9 heures et ils ne buvaient pas de vin en dehors des repas. Donc il n'était pas possible qu'ils soient ivres. Pierre ne dit pas que la Pentecôte était l'accomplissement de la prophétie de Joël. Les signes et les prodiges de la prophétie ne se sont pas produits à la Pentecôte. Cette prophétie concerne la nation d'Israël à la fin des temps dans le cadre du jour de l'Éternel. Mais l'Esprit Saint conduit Pierre à voir dans cette prophétie une application pour l'Église. Il dit en résumé, c'est là le même Esprit Saint évoqué par Joël. Il est ici. C'était pour un juif une révolution, un changement radical. Les juifs pensaient que l'Esprit de Dieu n'était accordé qu'à quelques personnes triées sur le volet. On voit ça dans Nombre, chapitre 11, versets 28 à 29 par exemple. Mais voici que 120 hommes de leurs compatriotes, hommes et femmes, étaient remplis du Saint-Esprit qui avait habité en Moïse, en David et dans les prophètes. Dans une certaine mesure, Israël assistait au dernier jour. Jésus avait achevé la grande œuvre de rédemption et il ne restait qu'à partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ en commençant par la nation d'Israël. L'invitation était la suivante, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Actes chapitre 2 verset 21. Après avoir expliqué ce qui se passe, la venue du Saint-Esprit, Pierre donne une deuxième explication. Pierre explique comment cela est arrivé. Et c'est là qu'il montre que Jésus est vivant. Actes chapitre 2, versets 22 à 36. Beaucoup de personnes présentes dans la foule avaient entendu parler de l'arrestation, du procès et de la crucifixion de Jésus de Nazareth. Ils avaient aussi entendu parler du vol de son corps par les disciples. Pierre va leur dire la vérité. Jésus est réellement ressuscité et sa résurrection prouve qu'il est le Messie. Pierre va fournir 4 preuves de ce miracle. Tout d'abord, la personne de Jésus-Christ, versets 22 à 24. Jésus était une personne réelle. La main de Dieu était sur lui, dans sa vie, dans sa mort et sa résurrection. Et tout cela ne s'est pas fait en cachette. La deuxième preuve que Pierre donne à ce miracle, c'est la prophétie de David, que nous lisons des versets 25 à 31. Il s'agit là du psaume 16, versets 8 à 11. En qualité de prophète, David a prédit la résurrection de Christ. La troisième preuve que Pierre apporte à ce miracle, c'est le témoignage des croyants. Verset 32. Jésus est apparu aux disciples après sa résurrection. Avant la résurrection, les disciples eux-mêmes ne croyaient pas que Jésus reviendrait à la vie. Il a fallu que Jésus les convainc. Et on lit ça dans Actes chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Qu'auraient gagné les disciples en parlant d'une résurrection qui n'aurait pas eu lieu? Ils seraient attirés l'hostilité, l'emprisonnement et même la mort. La quatrième preuve que Pierre avance, c'est de dire en quelque sorte ceci, si le Saint-Esprit est là, c'est que Jésus est ressuscité et qu'il l'a envoyé du ciel. En conclusion, Pierre leur disait, Jésus est votre Messie, mais vous l'avez fait mourir. Israël a tué son propre Messie et a commis un grand crime. Était-il possible de réparer cette erreur? Était-ce la fin de l'histoire du peuple d'Israël? C'est maintenant que Pierre va donner la troisième explication. Pierre va expliquer pourquoi cela est arrivé. Il va expliquer que c'était pour sauver les pécheurs. Actes chapitre 2, versets 37 à 41. Nous lisons au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Repentez-vous. La repentance. Qu'est-ce que cela signifie? Se repentir, c'est regretter sincèrement son péché. C'est le dénoncer et s'engager de tout son cœur à y renoncer et à marcher dans l'obéissance à Christ. La repentance, c'est plus que regretter ses mauvais actes. C'est plus que d'avoir du remords par rapport à ses péchés. Il faut aussi le désir de renoncer au péché commis contre Dieu. La repentance contient à la fois une compréhension intellectuelle. On reconnaît que le péché est une mauvaise chose. Il contient aussi une adhésion émotionnelle aux enseignements bibliques concernant le péché. On regrette et on a de la haine pour le péché. Et enfin, il contient une décision personnelle de s'en détourner. La repentance et la foi sont deux côtés d'une même pièce, ou deux aspects différents d'un événement unique qui est la conversion. On ne se détourne pas de son péché pour mettre ensuite sa confiance en Christ, ou inversement. Les deux démarches, se détourner de son péché et mettre sa confiance en Christ, se produisent en même temps. Nous nous tournons vers Christ pour recevoir le salut, et en même temps, nous nous détournons des péchés dont nous demandons à être sauvés. Nous connaissons tous un certain nombre de textes bibliques qui mentionnent la foi seule comme condition du salut. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, nous connaissons ces textes où la foi seule est nommée comme condition du salut. Mais il existe beaucoup d'autres passages qui mentionnent uniquement la repentance. Étant sous-entendu que la repentance authentique implique aussi la foi en Christ pour le pardon des péchés. La repentance était prêchée par Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 3, verset 2. Par Jésus-Christ aussi, Matthieu chapitre 4, verset 17. La repentance, c'est le thème qui traverse tout le livre des Actes. Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 5, verset 31. Actes chapitre 8, verset 22. Actes chapitre 11, verset 18. Actes chapitre 17, verset 30. Actes chapitre 20, verset 21. Actes chapitre 26, verset 20. Voilà. Et pour résumer, on peut lire Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 7, où Ésaïe dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » On voit au verset 7 que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, et en même temps, il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Les auditeurs juifs auxquels Pierre s'adresse ont une riche histoire culturelle et religieuse. Ils sont fortement attachés à l'idée d'une nation juive. Ils ont rejeté Jésus et l'ont fait crucifier. En leur disant « Repentez-vous Pierre les exhorte à changer de direction, à tourner le dos à toutes ces choses auxquelles ils sont attachés et à se saisir de Christ comme leur Messie. En les invitant à se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, Pierre leur demande de témoigner publiquement de deux réalités, la rupture avec le judaïsme et l'identification avec Jésus-Christ. Le baptême est le témoignage public d'une réalité intérieure. Nous témoignons que nous sommes en Christ, que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est un pas d'obéissance important pour tous les croyants et ils devraient suivre de près la conversion. Dans l'Église primitive, le baptême est tellement lié au salut que Paul écrira aux Éphésiens « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ». Le baptême ne procure pas le salut. Il est un témoignage public du salut que nous avons déjà en Jésus-Christ. Le texte nous parle aussi du pardon des péchés, les péchés passés, présents, futurs. Ce pardon des péchés est le privilège de tous les croyants et constitue un grand sujet de joie. C'est un sujet de joie de quelques psaumes, par exemple le psaume 103, où David bénit l'Éternel, dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités ». Il parle « Autant l'Occident est éloigné de l'Orient ». Vous connaissez bien ce psaume. C'est le pardon des péchés, c'est une vérité merveilleuse que l'on trouve en plusieurs endroits du Nouveau Testament. Le Seigneur lui-même dira « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Matthieu chapitre 26, verset 28. Luc rappelle aux disciples que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toute la nation, à commencer par Jérusalem. Luc chapitre 24, verset 47. Paul écrit aux Éphésiens « Qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Et Jean dit enfin simplement « Petits enfants, vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. » 1 Jean chapitre 2, verset 12. Les bénédictions du salut ne s'arrêtent pas seulement au pardon des péchés. Pierre ajoute au verset 38 « Vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce don gratuit, merveilleux et immérité n'est pas seulement pour les auditeurs de Pierre, car Pierre va préciser « Car la promesse du Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Au verset 39. Quand il dit « vous et vos enfants », Pierre parle de la nation d'Israël qui doit recevoir l'Esprit selon la promesse de l'Ancien Testament, que l'on trouve par exemple dans Isaïe 43, verset 3, dans Ézéchiel chapitre 36, verset 27, Ézéchiel chapitre 37, verset 14, dans Joël chapitre 2, verset 28 à 29. Pierre dit aussi « et tous ceux qui sont au loin ». Il parle là maintenant des païens, des non-juifs. Éphésiens nous parle de ça au chapitre 2, verset 11 à 13. Pierre continue en disant que ceux qui recevront l'Esprit sont ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cette proposition souligne la souveraineté de Dieu dans le salut. Le verset 21 disait « Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé ». Le salut comporte à la fois la responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu, mais sans harmoniser les deux. Il y a une tension entre les deux. L'Écriture n'harmonise pas ces deux notions et nous devons résister à la tentation de le faire. Les pensées de Dieu sont largement au-dessus des nôtres. Luc exhorte enfin ses auditeurs à se sauver de cette génération perverse. Bien sûr, par la foi et la repentance. Le Seigneur Jésus avait déjà qualifié dans les évangiles cette génération comme étant une génération méchante et adultère dans Matthieu chapitre 12 verset 39, Matthieu chapitre 16 verset 4, comme étant une génération méchante, Matthieu chapitre 12 verset 45, Luc chapitre 11 verset 29, comme étant une race incrédule, Marc chapitre 9 verset 19, comme étant une race incrédule et perverse, Matthieu chapitre 17 verset 17, Luc chapitre 9 verset 41, comme étant une génération adultère et pécheresse, Marc chapitre 8, verset 38. L'histoire nous apprend que beaucoup de personnes, des milliers de juifs de cette génération, vont périr pendant la révolte juive, dont le point culminant sera la destruction de Jérusalem en an 70 après Jésus-Christ. Quand Pierre donc les appelle à se sauver de cette génération perverse, il y a urgence, il ne faut pas tarder. Le verset 41 nous montre l'effet de la prédication de Pierre lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit et qu'il a prononcé son serment. Au verset 41, nous lisons « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Les auditeurs juifs, rappelez-vous, devaient tourner le dos à leur culture, au risque d'être rejetés par leur propre famille. Ils devaient accepter aussi Jésus-Christ comme Messie, alors que leur chef religieux l'avait rejeté, exécuté. Les juifs convertis risquaient alors d'être mis au banc de la société. Malgré tous les dangers que pouvait comporter le fait de se donner à Jésus-Christ, ils n'ont pas hésité une minute à s'identifier publiquement à Christ. Ce jour-là, il nous est dit, ce jour-là, ils acceptèrent sa parole et furent baptisés. Qu'en est-il aujourd'hui de vous, chers amis auditeurs? Eh bien, je vous laisse avec le cantique numéro 257, le prince de la vie sur les ailes de la foi. Et que Dieu bénisse sa parole dans votre cœur.